Mais il y a aussi qui a un prénom.
Oui, Sébastien a appris, il est marié. Ça a démarré mon jour.
Ouvre la bouche.
Avance un peu.
Et si tu veux te faire une grande langue.
Allez, monte un peu, un petit peu en avant.
Vous êtes lourd.
Vous êtes lourd.
Je trouve ça lourd, moi. Bien, on va commencer. Nos crépitreries sont terminées. Désolé pour le retard au démarrage. Je me présente en quelques mots, puis je vais passer la parole à Enos qui va lire un texte en rapport avec ce que je présente. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Antoine Comiti, un des organisateurs de la campagne pour l'abolition du foie gras, qui occupe le principal de mon temps, mais j'ai été intéressé pour diverses raisons que je vais vous expliquer, de regarder du côté de l'esclavage, plus précisément du côté des campagnes d'abolition de l'esclavage humain, pour en tirer un certain nombre de leçons qu'on va regarder ensemble. Juste avant que je commence, Inos qui est ici, qui nous accueille là, dans la salle d'artistes de travail, un petit texte à nous lire de Louise Michel, que vous verrez en rapport avec la présentation qui suit. Inos, je te laisse le lire.
Louise Michel, c'est une femme qui a participé en tant que révoltée à la commune de Paris, qui a subi des répressions extrêmement sanglantes avec quelque chose comme 30 000 déportations. Donc elle avait été à l'époque déportée, c'était en 1890, par là.
71.
Voilà, merci. Et donc, ce sont les mémoires de Louise Michel. Et donc, je suis tombée sur un passage où Louise Michel était donc institutrice, issue de la. Elle est née en Haute-Marne et elle a donc des racines dans la campagne, campagne française. Et voilà ce qu'elle écrit. Au fond de ma révolte contre l'effort, je trouve, du plus loin qu'ils me souviennent, l'horreur des tortures infligées aux bêtes. Depuis la grenouille que les paysans coupent en deux, laissant se traîner au soleil à moitié supérieure, les yeux horriblement sortis, les bras tremblants, cherchant à s'enfuir sous la terre, jusqu'à l'oie dont on cloue les pattes, jusqu'au cheval qu'on fait épuiser par les sangsues, ou fouillé par les cornes des taureaux, la bête subit lamentable le supplice infligé par l'homme. Et plus l'homme est féroce envers la bête, plus il est rampant devant les hommes qui le dominent. Des cruautés que l'on voit dans les campagnes commettre sur les animaux, de l'aspect horrible de leurs conditions, datent avec la pitié, pour eux, la compréhension des crimes de la force. C'est ainsi que ceux qui tiennent les peuples agissent envers eux. Cette réflexion ne pouvait manquer de mon venir. Pardonnez-moi, mes chers amis de province, si je m'appesantis sur les souffrances endurées chez vous par les animaux, dans le rude labeur qui court sur la terre marâtre, vous souffrez tant vous-même que le dédain arrive pour toutes les souffrances. Cela finira-t-il jamais? Voilà. À la suite, le livre, je pourrais faire des photocopies si certains sont intéressés, et puis vous pouvez aussi vous procurer. C'est l'édition Redécouverte, Louise Michel, Mémoire. Voilà.
Tu peux dire le numéro de page?
Le numéro de page, c'est la page 91.
Merci, Enos.
Merci.
Avant de vous présenter le plan, je voudrais dire un mot par rapport à l'objectif général que j'ai poursuivi en faisant ce travail. À l'origine, ma préoccupation principale était de regarder les manières dont les esclaves humains souffraient, étaient affectés par leurs conditions, par les pratiques qu'on leur faisait subir, par les conditions de vie dans lesquelles ils étaient, et d'explorer les similarités qu'il y avait du point de vue de ce qu'ils ressentaient avec ce que ressentent les animaux utilisés aujourd'hui. Il s'avère que pour diverses raisons, je pourrais détailler après, j'ai reconsidéré cet objectif et j'ai fait plutôt quelque chose qui regarde principalement les campagnes d'abolition de l'esclavage humain, d'essayer de voir à quelles difficultés ils sont confrontés, dans quel état d'esprit ils se trouvaient dans la société à ce moment-là, les personnes qui ont mené ces campagnes d'une part, et d'autre part les révoltes des esclaves eux-mêmes pour sortir de leurs conditions, plus que réellement les conditions de vie. Donc je vais en parler quand même, notamment au travers d'une petite vidéo d'une dizaine de minutes et d'un certain nombre d'illustrations d'époque. Mais mon intérêt principal aujourd'hui pour ce travail, c'est d'essayer de voir quelles leçons on peut tirer de ce mouvement du passé, mais vous verrez qu'il se poursuit aujourd'hui, d'abolition de l'esclavage humain, pour mieux comprendre dans quelle situation on se trouve nous-mêmes aujourd'hui face à la condition des animaux et l'exploitation qui en est faite, et pour mieux comprendre en fait où on se trouve, parce que je pense qu'on n'a pas nécessairement conscience de l'ampleur du mouvement historique dans lequel on se trouve nous-mêmes aujourd'hui. Et puis d'autre part, j'ai été frappé à mesure que je faisais ce travail par un certain nombre de similarités qui se situaient dans les modes de lutte et les résistances qu'ils ont rencontrées, que j'ai trouvé finalement plus intéressante que les similarités entre les souffrances endurées par les divers individus humains et non humains aujourd'hui. Brièvement, le plan de ce que je vous présente, c'est qui sera donc suivi d'une discussion, hein, comme on fait d'habitude. Il y a d'abord, on va regarder quelques éléments des arguments qui étaient échangés autour de l'abolition de l'esclavage humain, pour et contre, et puis les stratégies discutées entre les activistes, les abolitionnistes de l'époque. Un rapide coup d'œil à la définition de l'esclavage qui existe, et puis on va regarder d'abord l'esclavage depuis l'abolition de l'esclavage. C'est-à-dire que, avant de regarder les campagnes qui ont abouti au XIXe siècle à faire interdire dans les pays occidentaux et dans leurs colonies l'esclavage des humains, on va regarder quelle est la situation des humains qui sont dans des situations de servitude ou d'esclavage ou similaires à l'esclavage depuis cette abolition. Ceci pour que l'histoire, qui peut paraître une belle histoire de l'abolition, qui donne l'impression de se terminer bien, en fait, elle se termine simplement moins pire qu'elle a commencé, et encore, on pourrait même en discuter en termes de nombre d'individus concernés. On passera ensuite à l'étude de l'esclavage, enfin à regarder un petit peu ce qu'il en était de l'esclavage du XVIe au XIXe siècle, au travers d'une vidéo d'illustration et d'un certain nombre de textes de l'époque. Les esclavages qu'on va regarder ici, c'est l'esclavage des Africains, des Noirs africains, depuis vers les colonies occidentales, principalement en Caraïbes et en Amérique, pas d'autres situations d'esclavage qui ont existé avant et en parallèle dans d'autres régions et sous d'autres formes. Qui ne veut pas dire qu'elles n'ont pas existé. Je m'intéresse à celles-ci parce que c'est celles-ci qui ont fait l'objet de campagnes d'abolition qu'on va regarder ensuite. Quand on parle, sans doute qu'on regarde des livres d'histoire récents, ou peut-être un peu plus anciens, mais probablement récents aussi, l'abolition de l'esclavage s'est présentée comme un processus des pays occidentaux qui, avec du retard certes, mais ont fini par appliquer les principes édictés dans les déclarations des droits de l'homme et d'autres principes de la philosophie du siècle des Lumières en particulier, mais pas seulement. Et plus que toute autre raison, on va voir que, en vérité, l'abolition de l'esclavage doit autant aux révoltes des esclaves eux-mêmes qui ont tenté de se libérer là où ils se trouvaient, que aux campagnes d'abolition. Évidemment, en termes de parallèle avec les animaux, là, il y a une très grosse différence Non pas que les animaux ne se révoltent pas, ils se révoltent, ils crient, ils se débattent, ils ont de s'échapper, mais évidemment ils ne sont pas capables de s'organiser socialement pour mener une campagne. Du moins par la violence, ils rompent la condition dans laquelle ils sont. On regardera ensuite deux campagnes d'abolition, la France et l'Angleterre. On ne regardera pas les États-Unis. La France, il est cité deux fois, puisqu'on va voir que l'esclavage a été aboli deux fois en France, puisqu'il a été rétabli entre-temps. On terminera sur quelques leçons, ou plus modestement, quelques idées ou principes qu'on peut un petit peu tirer par rapport au combat qu'on mène, au mouvement pour les animaux, au mouvement animaliste. Et discuter éventuellement de l'idée d'un slogan ou de quelque chose d'un petit peu commun qui pourrait être partagé dans différentes campagnes autour d'une notion que les animaux ne sont pas nos esclaves. Ce que j'ai découvert en regardant l'histoire de l'abolition de l'esclavage humain, c'est que c'est aujourd'hui considéré comme un mouvement noble, beau, qui grandit l'homme, etc. Mais que, évidemment, quand il a été mené à l'époque, et ceux qui l'ont mené, en tout cas du point de vue des abolitionnistes occidentaux, c'était une minorité qui s'est battue face à une majorité qui n'était pas nécessairement hostile, mais indifférente, qui pensait que c'était chimérique ou que ça ne le méritait pas. Alors, regardons un petit peu un certain nombre d'arguments qui étaient échangés autour de l'abolition de l'esclavage. Je ne les repasse pas nécessairement dans le temps, je dirais peu importe pour le moment, mais Alors, j'ai préparé beaucoup de transparents, je ne vais pas tous vous les montrer, donc je vais en passer un certain nombre un petit peu vite. Voilà, d'abord, ce qu'il faut voir, c'est que il est reconnu aujourd'hui que le travail des philosophes, des écrivains, disons des Lumières en général, des penseurs de l'époque du XVIIIe siècle, qui a précédé l'abolition de l'esclavage, autour de l'élaboration d'un argumentaire contre l'esclavage, a été crucial pour les campagnes par la suite. Et c'est quelque chose, c'est un, quelque sorte un travail qui a été réalisé à cette époque, dans lequel épuise encore les associations qui continuent de lutter contre l'esclavage. Je dis ça en particulier vis-à-vis de certains militants qui ne sont pas toujours conscients de l'importance du débat d'idées ou du développement d'argumentaires ou d'études philosophiques autour de la condition animale. On voit que dans le cas de l'esclavage humain, ça a été une des très grandes forces des abolitionnistes occidentaux, c'était de pouvoir se référer à un corpus d'arguments cohérents en leur faveur, ce que ne pouvaient pas faire aussi fortement leurs opposants esclavagistes. Alors il faut voir que c'est pas parce que certains penseurs des Lumières se sont affirmés contre l'esclavage qu'ils l'ont fait de manière extrêmement claire, régulière et forte. C'est pas le cas en l'occurrence. Certains, par exemple, ont critiqué l'esclavage mais avaient des parts dans des sociétés de traite négrière. Et du coup, des extraits, il y a beaucoup de textes, je ne sais pas, oui, vous avez compris, un expert de l'esclavage, je vous fais partager ce que j'ai appris récemment. Je me réfère beaucoup à un livre, beaucoup de citations sont dans les transparents, qui est ce livre-là, L'abolition de l'esclavage du XVIe au XXe siècle, qui est une synthèse sur la question de Nelly Schmidt, qui est sortie cette année. Je reprends les thèses de cette chercheuse, parce que je ne suis pas capable moi-même d'en avoir fait une analyse. Hein. Sa thèse, c'est que les philosophes des Lumières ont apporté un argumentaire. Le fait que les philosophes des Lumières aient apporté un argumentaire solide a été une très grande force. Par contre, le fait qu'eux-mêmes ne se sont pas positionnés plus fortement a été une cause de grandes difficultés pour ceux qui luttent.
Attends, tu vas nous refaire une image. Oui. Du coup, j'arrive pas à lire.
Oui, il ne faut pas tout lire. Les transparences pourraient être améliorées et raccourcies, hein, pour certains. Voilà. Non, parce que je préfère qu'on voit plus de choses et moins en profondeur sur certains des points. je vous lis un extrait de ce qu'a dit l'abbé Grégoire. Bon, ça c'était au XVIIIe siècle. L'abbé Grégoire, c'était un des rares penseurs qui restait pendant toute la durée de sa vie actif contre l'esclavage, y compris pendant la période où il n'était plus de bon ton d'en parler, il y avait de la censure sur le sujet sous Napoléon. Donc, de manière très courageuse, il a maintenu la lutte. Et il disait, donc, je vous lis le texte, « La traite est un attentat contre la loi naturelle qui défend à autrui ce que nous ne voulons pas qu'il nous soit fait. Un attentat contre la loi évangélique qui, sanctionnant celle de la nature, y ajoute l'obligation de faire pour nos semblables, nos frères, tout ce que nous désirons qu'on fasse pour nous-mêmes. Un attentat contre le pacte social, dont il enfreint le principe. Un attentat contre le droit des gens. Que diriez-vous si des pirates noirs venaient sur vos côtes, voler des blancs, les mettre au fer et les traîner dans un marché africain pour y être vendus ? » Dans les arguments échangés, j'étais surpris de trouver ponctuellement des arguments autour du cannibalisme. C'est-à-dire qu'on justifiait à la fin du XVIe la réduction en esclavage des Amérindiens, non pas les Africains qu'on aimait, mais ceux qui étaient sur, les peuples qui étaient sur place, parce que dès qu'il y avait une rumeur d'anthropophagie, donc c'était une justification pour les mettre en esclavage. Et puis dans la critique de l'esclavage lui-même, il était fait référence parfois que c'était une pratique de cannibale, hein, c'est-à-dire que l'abbé Grégoire, toujours lui, disait « Des cannibales du continent européen pourvoient de chair humaine d'autres cannibales de la Martinique et de la Guadeloupe. » Pourquoi de chair humaine? Parce qu'à la fois on transporte des hommes, on transporte leur chair, mais aussi parce qu'ils y laissent leur sang, leur vie dans ce trafic, dans cette exploitation. Où un capitaine de l'époque, c'est contre la poudre, le tabac, l'eau de vie, les cotonnades, qu'on échange la chair noire. Alors, quelques arguments des esclavagistes de l'époque, je vous les lis. « L'esclave qu'on achète en Afrique est condamné à la mort ou à des peines afflictives dans son pays. Il le quitte sans regret. Les esclaves des colonies américaines jouissent d'un luxe qu'on chercherait en vain chez le peuple dans les provinces de France. » Alors ça, cette notion de comparaison entre comment étaient les esclaves par rapport à comment étaient d'autres personnes dans le monde, ou en France, ou d'autres certaines classes sociales, était quelque chose qu'on retrouve constamment. Par exemple, l'abolitionniste italien, en 1814, il disait « La France est inondée de brochures, donc des esclavagistes, dans lesquelles on ose affirmer que la condition des nègres de Saint-Domingue était bien supérieure à celle des serfs de Pologne et de Russie, qui vivaient fort heureux, plus heureux que nos paysans, puisqu'ils n'avaient point de responsabilité. » Un argument aussi qu'on entend souvent, l'intérêt des propriétaires d'esclaves est de les ménager et de bien les nourrir. Et un abolitionniste rappelait qu'au contraire, des plans, comme contre-exemple, comme nous-mêmes on peut prendre le foie gras aujourd'hui, un contre-exemple c'était que les planteurs des Caraïbes trouvaient économique de faire périr leurs nègres par un travail excessif en 4 ans. Ça coûtait moins cher d'en racheter des neufs ensuite que de les maintenir plus longtemps. Alors, dans les débats de l'époque, du côté des. Dans le contexte d'un mouvement abolitionniste, il s'est dessiné, on distingue donc couramment deux approches. L'approche dite anti-esclavagisme et l'approche abolitionniste. L'approche anti-esclavagisme, c'est simplement le fait d'être contre l'esclavage, d'être opposé. Alors que. Donc, c'est ce qui est apparu le premier. L'abolitionnisme, c'est quelque chose de plus. On est non seulement contre l'esclavage, mais en plus. On ajoute le fait qu'on veut transformer la société plus largement pour que, à la suite, dans le contexte de l'abolition de l'esclavage, avec l'abolition de l'esclavage, il y ait d'autres changements qui se produisent, qui pourraient d'ailleurs être nécessaires à l'abolition de l'esclavage de ce point de vue. On reviendra un petit peu sur cet aspect-là par la suite. Un autre débat qui était très très central qui structurait ce mouvement, c'était l'abolition de la traite ou de l'esclavage. La traite, on va y revenir après, on va le voir notamment au travers de la vidéo, c'était donc le fait de capturer des Africains dans leur village et de les emmener de force jusqu'à la côte africaine atlantique, puis par bateau jusque dans le Caraïbes ou en Amérique. Donc ça c'est la traite. La traite c'est la notion d'acheter, de vendre, de transporter des humains. Les abolitionnistes ont, dans leur écrasante majorité, dans une première phase, demandé l'abolition de la traite. Il y avait différentes raisons qui viennent assez naturellement à l'esprit. Une première, c'était que c'était demander moins que demander l'abolition de l'esclavage, donc c'était plus acceptable pour la société d'entendre ça. Une autre, c'est que la traite est une forme particulièrement brutale, qu'on ne retrouve pas nécessairement de manière aussi, on peut dire, visuelle du côté de l'exploitation de l'esclavage dans les colonies, qui lui-même était d'ailleurs plus divers. Alors quand on décrivait la traite, on décrivait à peu près la même chose pour tout le monde. Une autre raison aussi, c'était donc d'ordre tactique, c'était de dire oui, alors j'imagine aussi, je ne l'ai pas lu, mais j'imagine assez logiquement, il y a peut-être des gens qui étaient opposés à l'idée de traite, qui était tellement révoltante, alors qu'ils pensaient peut-être que les esclaves n'étaient pas si mal. Je pense que ça devait exister aussi. Et puis aussi, donc, tactiquement, de se dire, de toute façon, puisque les esclaves meurent beaucoup dans les plantations, si la traite est arrêtée, petit à petit, l'esclavage va s'éteindre par manque d'esclaves en Caraïbes et en Amérique. Si on abolit la traite, ça veut dire qu'on aura aboli l'esclavage derrière, tôt ou tard. Il y avait d'autres raisons encore, comme celle qu'on voit sur ce transparent, c'était que simplement que les Noirs esclaves, les Noirs en général, n'étaient pas prêts pour vivre en hommes libres, comme un citoyen de ces pays-là. Donc on voit Brissot, qui est donc un abolitionniste, qui a, si je ne me trompe pas, fondé la Société des Amis des Noirs, qui était la société qui demandait l'abolition de la traite, disait « Non seulement la Société des Amis des Noirs ne sollicite point en ce moment l'abolition de l'esclavage, mais elle serait affligée qu'elle fût proposée. Les Noirs ne sont pas encore mûrs pour la liberté, il faut les y préparer. Telle est la doctrine de cette société. » Et c'était à la fois tactique, parce que c'était plus facile de dire ça, de demander l'abolition de l'esclavage, mais aussi parce qu'une bonne partie d'entre eux le pensaient. On verra après quelques éléments sur le racisme dans le mouvement abolitionniste lui-même. Victor Schlöcher, je ne sais pas comment on dit précisément son nom, pardon ? Schlöcher, qui est donc un Français qui a été un des principaux artisans de l'abolition définitive en 1848, on y reviendra, disait en 1830 « Loin de moi la pensée de bouleverser le monde, de compromettre les intérêts et la vie de tant de colons attachés à l'esclavage. Laissons faire le temps, la mort et les affranchissements successifs feront disparaître peu à peu les restes de l'esclavage. La seule chose dont on doit s'occuper aujourd'hui, c'est d'en tarir la source en mettant fin à la traite. » Il y a la traite, il y a l'esclavage et puis il y a les colonies. On va voir juste après que l'esclavage est apparu en même temps que la colonisation des Caraïbes et des Amériques, tout de suite. Les abolitionnistes étaient opposés à la traite, pas nécessairement à l'esclavage au début, mais ils l'ont été dans un second temps, autant l'opposition à la colonisation n'existait pas du tout, par des exceptions rarissimes qui ne méritent même pas d'être citées. On le voit de manière flagrante dans le nom de cette Société des Amis des Noirs, créée en France pour demander l'abolition de la traite, qui, dans un second temps, ajoutait Société des Amis des Noirs et des Colonies, pour dire qu'ils n'étaient pas contre les colonies. Au contraire, ils avaient même des arguments pour expliquer que l'abolition de la traite, puis ensuite de l'esclavage, pouvait servir les colonies de diverses raisons, et qui n'étaient pas toutes fausses d'ailleurs. Victor Hugo, en opposant l'esclavage, s'est prononcé contre. Expliquait que l'Afrique était à personne aujourd'hui et que donc c'était une terre vierge sur laquelle la France et les autres pays occidentaux devaient mettre en valeur, quoi, comme s'il n'y avait pas d'habitants en Afrique à l'époque. Un autre débat qui avait lieu dans le mouvement mais dans la société en général quand la mise en cause de l'esclavage s'est répandue, c'était: est-ce qu'il faut améliorer les conditions d'esclavage ou est-ce qu'il faut l'abolir? C'est devenu assez fort en France dans les années 1840 quand le mouvement abolitionniste a pris beaucoup de force suite à l'abolition en Angleterre, on va le voir après, et à ce moment-là donc il y a eu une peur, enfin la concrétisation que peut-être l'abolition de l'esclavage c'était quelque chose qui pouvait se produire et non plus comme c'était le cas encore 50 ans auparavant, quelque chose d'absolument chimérique dont personne pensait que ça puisse se produire dans les 50 ans à venir. Et donc ce qui s'est passé, c'est que pour défendre l'esclavage à ce moment-là, l'idée d'améliorer les conditions est devenue importante chez ceux qui étaient esclavagistes, mais aussi chez ceux qui n'étaient pas pour l'abolition, sans être fondamentalement, on va dire, militants esclavagistes. Et C'était donc effectivement un grand partisan des maintiens de l'esclavage, de dire ben, les conditions s'améliorent, se sont améliorées, vont s'améliorer, ou faisons des lois pour les améliorer, il n'y aura pas besoin d'abolir. Et en mettant ça en regard avec l'idée que les esclaves noirs n'étaient pas prêts pour être libres, vivre seuls, étaient mieux, on va dire presque en captivité, en mettant ces deux arguments en balance, ça accréditait l'idée que ça pouvait se maintenir. Schlechter lui-même reconnaissait que des descriptions atroces de ce qu'était la condition des esclaves étaient exagérées au regard de ce que lui avait vu sur place. Mais lui disait ce n'est pas une raison, enfin il reconnaissait néanmoins, il disait que c'était l'esclavage ne peut subsister. Donc c'est cette question de savoir jusqu'à quel point les esclaves étaient mal, étaient discutés, dans quelle mesure on pouvait l'améliorer dans le contexte de l'esclavage. Ce que Schlechter disait en 1847, donc un an avant l'abolition définitive dans les colonies françaises, il est impossible. Alors ça, c'est un texte qu'il a écrit après avoir édité un livre qui donnait toutes les une liste des sévices et maltraitances que des esclaves noirs dans les colonies de Guadeloupe et de Martinique avaient subies, qu'il avait récupéré de d'un juge sur place qui lui avait fourni les dossiers. Et donc ça donnait lieu à une publication en France. Donc qu'est-ce que c'est vraiment l'esclavage depuis 2 ans? Qu'est-ce qui se passe tous les jours là-bas, qu'on ne sait pas. Et donc il concluait, il est impossible d'introduire l'humanité dans l'esclavage. Il n'existe qu'un moyen d'améliorer réellement le sort des nègres, c'est de prononcer l'émancipation complète et immédiate. Une difficulté que moi je ressens dans le cadre du mouvement animaliste et que j'ai perçu aussi dans le mouvement abolitionniste humain, c'était le fait que y a la notion qu'on dénonce des pratiques routinières. Je veux dire, l'idée qu'on dénonce les maltraitances faites des animaux individuels, quelqu'un qui bat son chien, c'est quelque chose qu'il faut réprimer, mais c'est quelque chose qui est déjà réprimé légalement et socialement. Tout le monde est d'accord que c'est mal, quoi. Donc la question de la bataille Et puis les causes de mortalité, ben, c'est tout ce qu'on peut imaginer. Maladie, malnutrition, mauvais traitement, suicide, révolte. Donc le consul anglais au Brésil disait en 1827, la mortalité annuelle sur beaucoup de plantations sucrières est si grande qu'à moins que son nombre ne soit augmenté par un apport extérieur, la population servile totale disparaîtra en 20 ans. Les propriétaires font le calcul qu'il est moins cher d'acheter des esclaves mâles que d'élever des enfants nègres. Donc ce deuxième aspect, c'est sur la mortalité dans les plantations. Il y avait une différence entre les conditions dans les plantations des Caraïbes de canne à sucre et aux États-Unis. Aux États-Unis, les taux de mortalité étaient plus faibles de manière très significative de ce qu'il y avait dans les plantations de canne à sucre. C'était lié au type de plantation, au climat, j'imagine. Et ce qui fait que la traite était beaucoup plus importante pour les Caraïbes que ça l'était pour les États-Unis. Il y a donc un autre une affiche de l'époque qu'on avait vue dans le film, je crois, qui est donc une affiche qui était mise dans les Caraïbes à l'arrivée d'un bateau. On disait, voilà, il arrive un bateau qui a 250 nègres en bonne santé, qui est juste arrivé à tel endroit. La plus grande attention a été portée et continuera de l'être pour les garder libres de diverses maladies, puisque... Voilà, et qu'on évite qu'ils communiquent avec d'autres gens pour ne pas en attraper. La vérité, c'est que des historiens ont retrouvé que ce bateau-là précis, hein, celui-ci, en fait, qui appartenait à Richard Rotswald, dans ce voyage, 40 esclaves étaient morts avant d'arriver en bonne santé. Je demande parfois si la filière viande n'a pas étudié avant nous les arguments. C'est-à-dire, ça rappelle des choses. Les taux de mortalité, c'est un des arguments très forts qui était utilisé à l'époque, à la fois pour le taux de mortalité sur les esclaves, mais aussi sur les marins, parce que les marins aussi mouraient beaucoup. C'était des conditions de travail terribles, et une mortalité énorme qu'eux-mêmes ne connaissaient pas quand ils s'engageaient. Et on voit que c'est un enjeu aussi dans les débats sur les conditions d'élevage. L'idée qu'il y a un taux de mortalité de 5%, par exemple, n'est pas un problème, c'est un taux standard. Il y a beaucoup d'élevages, parfois même plus.
Pour les poissons, hein, c'est des fois ça dépasse 30%, même plus.
Ouais. Alors,
pour les poissons qui viennent de son plus sauvage, de mortalité également pour 30%. Il y en a un sur 10 qui va arriver
sur la même.
Non, c'est pour ceux qui sont pêchés en milieu naturel.
Pouvoir venir copier les
poissons. Non, les aquariums.
Je vous montre maintenant quelques images tirées d'un livre américain qui s'appelle The Dreaded Comparison, Human and Animal Slavery, ça veut dire la comparaison redoutée, l'esclavage humain et l'esclavage animal, qui est, il y a une dizaine d'années, réédité régulièrement, qui contient un texte très, très bien, simple, intelligent, documenté, très très bien, accessible, vraiment de qualité, sur ce parallèle, mais qui n'est pas fait d'une manière simpliste, hein, c'est une manière intelligente pour comprendre les parallèles qu'il y a entre les deux formes d'esclavage, et qui présente des illustrations qui parfois font des parallèles plus simplistes par l'image, mais qui ont une valeur dans certains cas, ou qui pourraient avoir une valeur symbolique, disons, hein. Parce que je ne veux pas dire qu'à chaque fois ce qu'on dure, puisque c'est pour moi ce qui compte principalement, ce qu'on dure les individus humains en haut et animaux en bas est la même chose, même si la situation vue de l'extérieur se ressemble. Alors, donc là c'est le cas par exemple ici, je considère que c'est pas nécessairement du tout la même chose qui est ressentie en haut et en bas, entre donc une vente d'esclaves aux enchères en haut en 1861 en Virginie, et puis bon bah ils ont mis le marché d'animaux. Je vous montre quelques autres illustrations de ce livre en passant, sans m'étendre. Je ne sais pas si vous voyez bien à droite. C'est en fait le marquage offert d'une femme qui a été capturée. Alors, je ne connais pas voilà, on voit l'homme qui est là. Je ne sais pas si vous voyez ici, et puis qui marque le dos de la femme qui est en dessous. Je ne sais pas quelle était la fréquence de ces pratiques. On dit que c'est une femme qui a été capturée. Imaginez que l'esclave qui s'est échappé qu'on recapture était peut-être marqué, ou peut-être c'était plus général, je ne sais pas.
C'était marqué la première fois, en plus, ça varie en plus, mais c'était souvent un truc graduel, ensuite on pique une jambe, ensuite les deux,
enfin, peut-être de la vie. Alors, je ne passe pas sur toutes, mais... il y a des parallèles faits entre un élevage industriel de poules fondeuse et puis ben, le fameux dessin de Thomas Clarkson en haut. Et puis divers instruments. Oui, et puis là, c'est au niveau de l'expérimentation. À gauche, l'expérimentation de la syphilis sur un chimpanzé, et à droite, l'expérimentation de syphilis aussi sur des Noirs américains. L'expérience de Tuskegee qui est relativement connue maintenant, depuis que je crois que c'est Bill Clinton qui a adressé ses excuses. Au nom de l'État américain, aux Noirs qui étaient soumis à ces expérimentations, qui consistaient essentiellement à ne pas soigner un certain nombre de Noirs américains atteints de syphilis pour voir comment la maladie évoluait, alors qu'on leur faisait croire qu'on leur injectait des produits pour leur soigner une maladie de sang, vous avez du bad blood, du mauvais sang, et qu'on les aidait. Ils sont morts donc, et la syphilis, c'est particulièrement terrible à la fin. Ça a duré pendant très très longtemps. Précisément, mais sur une quarantaine d'années, je crois, oui, ça s'est terminé.
Dans les années 60.
Dans les années 60, ça a été terminé.
Oui,
début des années 60. Il y a un livre que j'ai ici qui est décrit plus en détail au nom de la science. Je ne l'ai pas lu, je ne connais pas la qualité du bouquin, mais il y a un chapitre sur ces expériences-là. Ce sont les expériences faites sur les humains, les expérimentations humaines. Photo. Donc il y avait toutes sortes d'appareils pour empêcher les mouvements des esclaves, soit pendant qu'on les transportait, soit pendant les termes de châtiment. Voilà, différentes. Dans les journaux, on trouvait donc les annonces, les affiches, les moyens d'immobiliser, donc un esclave mis au pilori à droite. Bon, ça vaut ce que ça vaut, c'est mis en regard, hein, mais c'est pas nécessairement profond, mais ça peut être symbolique, je trouve. Alors, quelques éléments de votre chronologie. Je donne ces éléments-là et après on va passer aux révoltes d'esclaves. Découverte de l'Amérique, entre gros guillemets, 1492, là, il y a une erreur, Christophe Colomb. On a vu l'esclavage dès le début, puis la traite. Les premières dénonciations publiques de l'esclavage et ou de la traite, c'était en 1688, des Quakers, qui sont une communauté protestante, donc là en Pennsylvanie, aux États-Unis, qui condamnent le fait d'acheter et de garder des nègres. Et c'est donc la première dénonciation publique qu'on est retrouvée. Ça veut dire qu'il n'y avait pas avant des gens qui n'étaient pas d'accord, mais jamais de manière publique. Au milieu du 18e, donc on a évoqué le courant anti-esclavagiste qui apparaît. Les Quakers, donc un siècle plus tard, en 1774, excluent de leur communauté ceux qui pratiquent le trafic négrier ou qui ont des esclaves et qui refusent de les affranchir. Et puis, dans le contexte des débats de l'époque sur les principes d'égalité et de liberté au moment de la rédaction de la Déclaration d'indépendance des États-Unis, ça amène à des débats aussi sur l'esclavage ou autour des problèmes de l'esclavage. Le Vermont, un État américain, donc inscrit l'abolition dans sa constitution en 1777. Et en 1780, commence la campagne des abolitionnistes britanniques, sur laquelle je vais revenir après. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est regarder dire quelques mots sur les révoltes d'esclaves, qui est souvent passé sous silence, comme quand on parle d'abolition, puisqu'on parle des campagnes d'abolition occidentales. Je recherche un transparent, en fait, ce qui est crucial de comprendre, c'est qu'il semble assez clair qu'en aucun cas l'esclavage aurait été aboli aussitôt, si ce n'est peut-être encore aujourd'hui, je ne sais pas, si les esclaves eux-mêmes ne s'étaient pas révoltés. C'est absolument clair que c'était complémentaire des campagnes elles-mêmes qui avaient lieu en Occident. Alors il y a eu très peu de communication entre les deux, c'est-à-dire entre les abolitionnistes, hein, britanniques, français, les esclaves eux-mêmes. Très peu de communication, c'est-à-dire qu'ils ne se parlaient pas. Alors d'une part, c'était très difficile, on ne pouvait pas, quand on était abolitionniste, aller comme ça dans les colonies, se balader, et aller parler des esclaves. Il y avait des problèmes d'accès, tout simplement. Et puis aussi, ils ne pensaient pas nécessairement que les esclaves étaient à même eux-mêmes de conceptualiser ce que c'était que devait être l'abolition, comment l'organiser, etc. Mais ce n'est pas parce qu'ils ne communiquaient pas entre eux qu'il n'y avait pas des influences très fortes, c'est-à-dire que, en l'occurrence, s'il y en avait, les révoltes d'esclaves provoquaient des avancées des campagnes en Occident et réciproquement. C'est-à-dire quand les esclaves savaient que des campagnes avançaient et que leur voix était portée, alors les révoltes se faisaient plus nombreuses et eux-mêmes réutilisaient les arguments. Alors, on va voir quelques exemples. Oui, ben là, donc je parle des révoltes d'esclaves, plus généralement la vie des esclaves était elle-même très peu connue, en fait, concrètement, par les abolitionnistes. Ils ne savaient pas vraiment ce que ça voulait dire pour la plupart d'entre eux, quoi, hein, que d'être esclave. À la fois parce qu'en soi, c'est difficile de se mettre à la place de quelqu'un d'autre, puis en même temps, la formation était rare. Et donc, les témoignages étaient particulièrement cruciaux de ceux qui avaient accès à ce monde-là, de l'esclavage, qui pouvaient rapporter tout ce que c'était au quotidien. Donc, il y a quelques anciens esclaves affranchis qui ont parlé. Ils sont assez rares. Il y en a un qu'on a vu dans le film tout à l'heure, Ekoano, en Angleterre, qui a écrit un livre sur une autobiographie qui décrit ce qu'il a vécu. Il y a des conférences avec les abolitionnistes britanniques, hein, pour parler de son expérience. Donc c'est un des rares cas où on avait des esclaves quand il y avait des conférences contre l'esclavage. Et puis, c'est dans le cadre des campagnes françaises, notamment sous l'impulsion de Schleicher, qui incitait des personnes qui ont vécu dans les colonies à témoigner de ce qu'ils ont vu, en particulier des personnes qui étaient placées, donc des ecclésiastiques, qui avaient accès à un certain nombre d'informations, et qui se faisaient expulser des colonies dès qu'ils commençaient à s'exprimer publiquement contre l'esclavage. Des juges, trois en particulier en Guadeloupe, qui ont donné à Schleicher tous les jugements de maltraitance contre les esclaves, et sur une durée de 2 années, ce qui a permis de sortir un livre qui rapportait ces faits, qui était donc assez indiscutable. Donc un de ces juges notamment disait, dans la préface de ce livre, « Mais quel pays suis-je donc venu habiter ?» puisque lui venait de métropole. « Il s'était juré de ne point borner sa compassion à des larmes stériles, mais de venir élever une voix courageuse contre une tyrannie si peu en rapport avec les lois d'un peuple libre et qui se dit protecteur des opprimés. » Donc il disait autant que ça servait à quelque chose. Ce qu'il avait vu, comme le lieutenant de gendarmerie Joseph France en Martinique, qui a fait un rapport de tous les sévices qu'il a vu passer, des abus de pouvoir, dans un livre qui s'appelait La vérité et les faits ou l'esclavage à nu. Ce reste des documents assez rares, en fait. Hein. Il y en a eu très peu de ce style-là. Oui.
Quand
l'esclave
était affranchi, est-ce qu'il avait aussi
Alors, il y a eu des lois de voter, 18 et plutôt 19e, oui, 18 et 19e, sur les endroits où on leur a donné les droits. Au départ, ils ne les avaient pas, c'était un statut bizarre.
Ouais.
C'est mentionné, je crois, sur la chronologie, on va voir. Alors, dans le livre sur l'abolition de l'esclavage, là, donc ça, c'est une contemporaine qui écrit ça, sa manière de voir ce que c'était que de résister au quotidien à l'esclavage, quand on était esclave là-bas, résister chaque jour, survivre au déracinement, à la déportation, aux séparations, au rythme de travail, à la malnutrition, aux maladies, à la violence des coups, au fouet, à la pression morale, au spectacle obligatoire de la flagellation des indisciplinés ou des tortures infligées aux marrons repris, survivre tout simplement aux caprices des maîtres, hommes et femmes, et à l'horreur insoupçonnée de leur imagination dans le domaine des châtiments et supplices. Voilà ce qui constitue la trame incessante, séculaire, de la résistance des esclaves, des Caraïbes et des Amériques. Donc avec cette phrase, résister chaque jour. Pas juste se révolter, mais dans le quotidien, à chaque minute. S'accommoder de ces contraintes était résister, mais aussi refuser, ralentir ou saboter le travail, voler de la nourriture, tenter l'empoisonnement du maître et parfois de sa maisonnée entière, provoquer un avortement ou tuer son enfant, son nouveau-né était résister, mais aussi se suicider était une forme extrême du refus de l'esclavage, une manière de victoire. Dans un livre que Schlescher a écrit, la description d'une vente aux enchères d'une femme à la Martinique que je vais vous lire. Je vais remettre la photo des marchands d'esclaves en haut. C'est pas au même endroit là, c'est donc en Martinique. En 1841, il avait assisté, donc nous avons assisté à une de ces criées de chair humaine. Quel spectacle ! C'était en 1841 à la Martinique, dans une grande salle remplie de meubles et d'objets de toute espèce. Au milieu de ce fouillis, assise dans un coin, sur des caisses de vin, était une fille de 17 ans ou 18 ans, la tête appuyée sur la main et le regard fixe. Elle ne paraissait pas précisément humiliée ni désespérée, mais mécontente et sombre. Un agent de police placé à côté d'elle la surveillait. Il y avait d'ailleurs beaucoup de monde et beaucoup de bruit. Les acheteurs qui l'apercevaient venaient l'interroger. « Êtes-vous bonne fille ? Savez-vous blanchir ? Travaillez-vous au jardin ? Le travail des champs ? Avez-vous eu des enfants ? Pourquoi vous vend-on ? N'êtes-vous pas marronneuse ? » C'est-à-dire disposée à s'échapper. 1000 questions de 1000 personnes diverses. Quelques-uns, je me rappelle, prirent ses joues pour voir si elle avait la chair ferme. Elle, froide, impassible, répondait mal, de mauvaise volonté, et on lui disait alors « Ouvre donc la bouche, qu'on t'entende, imbécile !» Et elle répliquait à peine quelques mots. Je suis persuadé, moi, qu'elle comprenait sa position, quoique née dans la servitude. Après avoir vendu une baignoire, un lit, un canapé et une lampe, le commissaire-priseur dit « À la négresse !» On s'approcha d'elle, il la fit tenir debout et la mit à prix. 100 francs, la négresse, une telle, âgée de 16 ans. Elle travaille au jardin. 100 francs, 100 francs. Le visage toujours froid, l'air impassible, elle restait appuyée contre un meuble. 120, 150, 155. Enfin, elle fut adjugée à 405 francs. Et le commissaire-priseur lui dit, montrant le dernier surenchérisseur, « Allez, voici maintenant votre maître. » C'était un mulâtre. Elle leva les yeux, le regarda, s'approcha de lui, toujours du même air. Il lui adressa quelques paroles et je les vis disparaître ensemble. Je les vois encore, c'est horrible. Sur les révoltes d'esclaves, à moins que vous souhaitez faire peut-être une pause pour certains, mais déjà un peu tard, je vois. On va poursuivre alors.